Vous écoutez
RMC. RMC. Le ring des GG.
Grosse chute de Paul Sexas. On a les premières photos. Il est allé carrément dans le décor. Paul Sexas, il a été attendu par deux de ses coéquipiers, mais ils auraient 3 minutes 20 de retard sur le peloton. Ça va être très, très dur de revenir. Et surtout, on ne sait pas trop dans quel état il est reparti. Il est bien remonté sur son vélo, mais probablement très amoché.
Je suis surtout inquiet pour le tour. Alors là, quand on tombe sur les routes du tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même une sacrée épine dans le pied qu'on se met parce que faut d'abord, dans un premier temps, récupérer de la chute et mentalement et physiquement. Alors qu'on devrait être dans une phase un peu d'euphorie à l'approche de son premier tour.
Pour l'instant, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Pas d'abandon pour Paul Sexas qui est en train de remonter avec Jérôme. Forcément, on se met un peu arrivé. On se dit, et si il arrivait à récupérer le peloton? Et si, dans l'ascension hors catégorie du Grand Colombier, il arrivait à remporter l'étape? Tout est possible avec Paul Sexas. Ça y est, Paul Sexas est dans le peloton. Il est même en tête de ce peloton avec les favoris de ce tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'était assez drôle l'image. Paul Sexas qui remonte tout le peloton avec tous les coureurs qui tournent la tête sur leur gauche en mode, ah ça y est, la fusée est rentrée. Il est bien là.
Franchement, c'est un des plus grands numéros que j'ai vu.
Il grimace, Paul Sexas. Elles sont longues ces dernières secondes pour le Français. Voilà, il vient de franchir la ligne. Paul Sexas, environ 1 minute 20 de retard sur Isaac Del Toro. Et il est parvenu à franchir cette ligne avec pas trop trop de retard au classement général. C'est tout simplement exceptionnel.
Il a chuté loin de l'arrivée, vous l'avez écouté, c'était sur RMC hier, il a compté jusqu'à 4 minutes de retard, mais a réussi à, grâce à ses coéquipiers, à revenir dans le peloton avant de perdre la roue des favoris dans la dernière ascension. Paul Sexas, 19 ans, a largement limité les dégâts par rapport à son rival Del Toro, vainqueur hier ce matin avant la dernière étape arrivée en haute altitude au plateau de Solaison. Le Français est à 1 minute 05 du Mexicain de 22 ans. On attend de savoir s'il va bien prendre le départ de la dernière étape. Les GG, je vous pose cette question. C'est le premier coup dur pour Sexas, c'est vrai qu'on avait souvent parlé ici du fait que pour l'instant, c'était une carrière sans accroc. Premier coup dur pour Sexas à 3 semaines du tour. Est-ce un mal pour un bien? Tiens, je vous pose la question. Jérôme, oui ou non?
Plutôt oui.
Marc?
Le mal n'est jamais bon.
Ah, on est sur quelque chose de plus nuancé, Fred?
Oui.
Pascal?
Non, sur la ligne de Marc.
Sur le compte XDGG, vous dites c'est un mal pour un bien à 79% pour l'instant. Vous pensez donc que ça peut lui servir effectivement. Maria Azé, notre envoyée spéciale sur le tour Auvergne-Rhône-Alpes, avec notre consultant Jérôme Coppel également. Bonjour les amis.
Salut Georges.
Salut, bonjour.
Maria, je te pose la question déjà très rapidement. On sait à 10h15 s'il va prendre le départ ou c'est encore flou?
Non, on ne sait pas encore. On n'a pas encore la réponse. Il devait constater un peu les dégâts entre guillemets ce matin, voir s'il n'y a pas des nouvelles douleurs qui se sont réveillées avant de prendre une décision sur est-ce qu'il sera au départ ou pas.
Comment Paul est revenu sur sa folle journée d'hier, Maria? Tu l'as rencontré après?
Oui, il était déçu forcément après sa journée, donc notamment marqué par cette chute après 32 km de course. Et surtout, il s'est fait très très peur, le Français.
Je suis arrivé beaucoup trop vite dans le virage, je pense qu'on était à 70 km/h. J'ai fait un vol plané sur la route, je me suis râpé 30 mètres, je pense, j'ai glissé. Et voilà, je suis vraiment amoché.
Au final, Georges, tu l'as dit, Paul Sexas fait une remontée exceptionnelle, bien aidé évidemment par ses coéquipiers, mais après avoir remonté près de 4 minutes de retard, ça c'est compliqué pour le leader de la Décathlon CMA-CGM dans la montée du Grand Colombier. Sexas est désormais à 1,05 d'Isaac Del Toro et forcément très déçu parce qu'il venait pour le maillot jaune.
Aujourd'hui, j'ai fait n'importe quoi dans cette descente. Je m'en veux énormément, forcément. Je suis pas fier de moi. Je suis fier de l'équipe. Ils ont fait un énorme travail. Je perds une 15 aujourd'hui, donc forcément, je suis pas fier de moi. Mais l'équipe peut être fière d'elle parce que, franchement, ce qu'ils ont fait, c'était juste incroyable. Je pense que je vais repartir demain. Je vais me battre jusqu'au bout pour l'équipe.
Voilà, tout est encore possible. Si le jeune coureur est au départ de Beaufort ce matin, c'est qu'il se sent bien parce qu'à 3 semaines du Tour de France et avec la préparation qu'il attend dans les prochaines semaines, on l'imagine mal compromettre son Tour de France pour, entre guillemets, qu'un tour Auvergne-Rhône-Alpes. La décision, donc, je le disais, sera prise ce matin en fonction de ses douleurs et de la nuit qu'il a passée. Mais hier, vous l'avez entendu, il était plutôt motivé pour terminer la course. Alors même s'il est au départ, reste à savoir dans quelle forme il sera parce qu'il était bandé de la tête aux pieds hier et il tenait à peine debout à la sortie du podium. Face à un Isaac Del Toro en pleine forme, on a un peu de mal à voir comment Paul Sexas pourrait refaire son retard.
Maria, tu nous tiens au courant évidemment dès que tu as une information sur le fait qu'il prendra le départ ou pas de cette dernière étape. Jérôme, est-ce un mal pour un bien? Jérôme Pinault sur Paul Sexas, donc son premier coup dur pour lui. On a 3 semaines du Tour de France.
Bah, c'est un mal pour un bien à partir du moment où il a pas perdu confiance dans les descentes et qu'il a appris de ses erreurs, et cette erreur il l'a avouée dès la ligne franchie, c'est de prendre trop de risques. Et c'est pas la première fois qu'il prend des risques pour se replacer dans les descentes. Il a une telle marge que je pense qu'il a pas besoin de ça. On apprend toujours quand on est défait, on apprend toujours de ses erreurs, on apprend toujours de comment on a abordé cette course, et il a que 19 ans. Donc il doit apprendre. Et ces moments-là, bah, évidemment qu'une fois digérés, et j'espère que ces blessures seront pas plus graves que ce qu'on a vu jusque-là, bah, il va l'apprendre et il refera pas deux fois la même chose, parce que c'est, comme il fait partie de l'ordre des petits génies, ils apprennent très vite. Donc en général, il va, lui,
en fait, ça nous rappelle qu'il a 19 ans quand même.
Il a que 19 ans.
Il peut faire des erreurs.
Et hier, il a une journée complète où on sait qu'il a 19 ans. Son erreur est une erreur de jeunesse. Il vient, il fait tomber les autres aussi. Derrière, dans la chasse, il met. Alors, il est très calme. Et derrière, dans la déclaration, bah, il redevient à 19 ans. Il dit c'est de ma faute. Il utilise des mots un peu grossiers, etc. Et tant mieux, parce que c'est là, ça nous remet un peu les pieds sur terre. Nous, on se dit. Bah, il est pas parfait, il a 19 ans seulement et il a beaucoup de choses encore à apprendre. Mmh. Maintenant, il apprend tellement vite que si aujourd'hui, il a les capacités de partir, moi je pense, je fais partie de ceux qui disent que s'il part, c'est pour gagner. S'il est, on va voir, faut pas partir.
Attends, tu penses qu'il faudrait pas forcément qu'il prenne le départ?
S'il part, c'est qu'il est capable de gagner la course. Mmh. Si c'est pour voir et finir la course. C'est pas nécessaire.
Jérôme Coppel, toi t'étais sur la route hier, t'as suivi de ça au plus près. C'est un mal pour un bien.
Bah moi je suis plutôt comme Marc. Hein. Il y a jamais de bonnes nouvelles à chuter. Maintenant, si ça devait arriver, bah autant que ça arrive sur le Tara, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça lui laissera le temps de se repréparer en vue du Tour. Maintenant, c'est pas gage non plus qu'il ne lui arrive rien sur le Tour. Par contre, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Jérôme pour dire. Enfin, est-ce qu'il doit prendre le départ ? Faut voir dans quel état il est, mais pour faire quoi finalement sur cette dernière étape ? Parce que il va pas être sûr au départ qu'il peut gagner. Et pour le classement général, c'est pour aller chercher un top 5, éventuellement un podium. Est-ce que ça vaut la peine de puiser encore dans ses réserves ? On sait que quand on prend une pelle comme il a pris, bah c'est jamais facile le lendemain, deux jours après, etc. Donc voilà, ça c'est à l'équipe de peser le pour et le contre et de voir la nuit qu'il a passée. Mais je suis quand même pas confiant pour qu'il fasse un grand numéro aujourd'hui après la gamelle qu'il a eu hier.
Je suis d'accord avec toi, Gégé. C'est surtout qu'il faut qu'on connaisse son programme. Le plus important pour le Paul Sexa, c'est de récupérer vite de ses blessures pour pouvoir effectuer le dernier bloc de travail en altitude pour le Tour. C'est pas cette dernière étape-là.
Marc,
s'il prend le départ, j'imagine que c'est parce que lui dit je peux performer.
Tu as écouté les deux Jérôme. Non, mais c'est vrai que c'est difficile d'évaluer à quel point ça sert ou ça le dessert, ce qui s'est passé hier. Comment tu te positionnes, toi ?
Alors, j'ai surtout bien écouté. Alors, j'ai écouté nos deux Jérôme, bien évidemment, mais j'ai surtout aussi écouté Paul Sexas. Et je trouve que sa communication est un modèle de média training dans l'expression de ce qu'il a fait dans la journée. Je trouve qu'à ce niveau-là, il a fait du très bon travail. Le petit souci que je vois quand même, c'est que sur cette semaine de course, je réfléchissais à ça en venant en voiture tout à l'heure, si on fait une comparaison entre Del Toro et Sexas, on a deux mondes qui s'affrontent. Quand on observe Del Toro, on est dans la gestion, on est dans le développement et dans la mise en place de quelque chose et dans l'expérience et dans le vécu par rapport au prochain Tour de France. Et en parallèle, on voit Paul qui est tout feu tout flamme, qui est enthousiasmant, mais enfin moi, vu de ma fenêtre, hein, peut-être que je fais fausse route, mais je vois quand même une dépense d'énergie extrêmement importante et qu'il faudra davantage maîtriser sur un Tour de France. Et c'est en cela que je pense qu'il est encore en apprentissage. J'espère que ça ne lui sera pas préjudiciable sur ce prochain Tour de France, mais j'ai quand même quelques petites inquiétudes.
Non mais voilà, ça lui permet d'apprendre aussi.
Oui, il apprend. Ouais, mais le problème d'apprendre, c'est normal que tout sportif apprenne, surtout à l'âge qu'il a. Le problème pour lui, c'est qu'il est
pollué par l'euphorie.
Non, pas pollué par l'euphorie. Il est lancé dans le grand bain avant d'avoir fini de barboter.
Oui, non mais c'est vrai. Et ça nous rappelle ce que tu disais un peu Jérôme tout à l'heure.
C'est deux idées qui s'affrontent. Moi, on en parlait en antenne. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est aussi très légitime de le penser. Je pense que de toute façon, il aurait été exposé, qu'on lui en demande beaucoup.
Non, non, mais c'est pas de fait. Hein.
Regarde, voilà, c'est ça.
Le problème, c'est très simple, c'est qu'il y a 40 ans qu'on attend.
On est tous très impatients. Moi, j'ai longtemps fait partie de ceux qui.
Mais sûr, Del Toro, il a pas la même pression populaire derrière lui.
Et c'est pas la même pression populaire. Et puis Del Toro, Marc, il est donc pas français. Et en plus, il sait ce qu'il attend en juillet.
Mmh. Oui, il sera là pour faire le travail.
Il va être là pour faire le travail.
Pour être coéquipier de Pogacar.
Donc lui, c'est la course qui. Alors, il y a la chute. Mais même sans la chute, je pense qu'on a vu avant-hier un Del Toro très fort. Parce que Paul a d'autres objectifs. Del Toro, lui, s'il veut gagner une grande course par étape pour le Tour cette année, il a plutôt intérêt de gagner là. Parce que celle en juillet, c'est pas pour lui, il le sait.
Vous n'êtes pas dans l'intégral Tour, vous êtes dans les grandes gueules du sport. Hein. C'est dans trois semaines, le départ du Tour de France à Barcelone.
Moi, quand j'ai dit, je dis juste court, quand j'ai dit que c'est un mal pour un bien, évidemment pour le long terme. Ouais. Évidemment que c'est jamais bon de tomber pour le court terme, c'est jamais très bon.
Mais Jérôme... Pascal. En fait, ça doit pas être la première fois qu'il tombe. Donc, j'arrive pas à comprendre le raisonnement que tu avances. Il est tombé, il est meurtri dans sa chair, et vous voulez m'expliquer que c'est un mal pour un bien. Non, c'est pas un mal pour un bien. Hier, à mon avis, hier, oui, il a effectué avec ses coéquipiers une remontée incroyable. Donc, ça situe que son équipe est aussi prête. Mais il le savait déjà. Il savait qu'il avait eu
Tu ne sais jamais autant équipe. Que dans la difficulté. C'est dans la difficulté que tu comprends justement de qui t'entoure, de qui t'accompagne, de qui est là avec toi, et de tes capacités propres.
L'équipe a été bannie. Là aussi, l'équipe a été aussi argumentée sur l'adversaire. Moi, il n'y a que des spécialistes du vélo, mis à part Fred, qui aiment quand même.
En descente.
Mais, par exemple, moi j'ai trouvé il tombe, mais les équipes elles l'attendent pas, elles foncent, elles veulent le distancer, donc ça veut dire que tout le monde craint Sexas. Mais est-ce qu'on a attendu cette chute pour savoir que c'est un client? Non
mais donc, ils savaient d'avance que c'était un client. Après, ils l'ont pas attendu, mais ils ont pas non plus cherché plus que ça à le distancer. En fait,
la course s'était lancée, moi j'avais l'impression que normalement on attend un peu plus qu'ils n'ont attendu. Voilà, c'est l'impression.
C'était pas sur le terrain directement, mais ils ont pas attendu, parce qu'ils avaient pas à attendre non plus. La course était lancée, donc elle est lancée. Après, on est dans la gestion de l'écart par rapport au peloton. Et là, il y a les commissaires qui interviennent, il y a les voitures, les groupes qui sont distancés et lâchés, qui font qu'il y a des barrages défectués par les commissaires. Moi, je pense que son équipe a très bien géré. Ils ont pas paniqué. Ils ont fait ce qu'il fallait avec les moyens qu'ils avaient, et ils l'ont bien fait. Après, la situation qu'on a connue hier sur le Dauphiné, si on la transpose sur le Tour de France, ce sera pas la même musique.
Ouais, mais c'est pour ça que ça peut lui servir, pour le coup, d'avoir vu comment ça se passe, pour ne pas reproduire la même chose. Fred, toi, tu dis que c'est plutôt un mal pour un bien. Évidemment, sous réserve qu'ils ne soient pas blessés, qu'il y ait rien de grave.
Évidemment, mais je comprends pas du tout ce qu'on est en train de dire. Là. D'un côté, on est en train de me dire, il manque d'expérience, on va le lancer dans le grand bain, etc., avec le Tour de France. Et d'un seul coup, on se dit, il va apprendre quand même, et c'est important. Donc, je comprends pas. S'il apprend, c'est que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça lui permet d'agrémenter son expérience.
Ça vaut mieux que ça lui arrive là plutôt que sur le Tour de France.
Mais je me répète.
Jérôme Coppel tout à l'heure.
Mais je me répète, mais c'est quand même très important de savoir si tu peux compter sur ton équipe, à quel point tu peux compter sur ton équipe, de savoir à quel point tu peux revenir dans le game quand tu tombes, de savoir aussi que parfois des erreurs de jeunesse peuvent te coûter une position au classement.
Ça, dans tous les sports, en fait.
Dans tous les sports, c'est important.
Parce que jusqu'à maintenant, il a connu que la victoire.
Moi, ce que je comprends pas, c'est que Pascal, qui a connu la défaite assez souvent, devrait savoir que c'est dans la défaite et dans la difficulté qu'on apprend le plus.
Mais cela dit, est-ce qu'on est sûr que la chute de Paul Sexas hier va l'affranchir d'une nouvelle chute dans le Tour de France?
Non, ça va certainement l'affranchir d'être démesuré dans des descentes.
Je souhaite pas de mal.
Là, hier, il est tombé dans un temps mort de la course. Il prend des risque dans cette descente, il le dit lui-même, ça va certainement lui apprendre à être plus mesuré, et que c'est pas la peine de prendre tous les risques pour gagner 5 places dans une descente à 80 bandes de l'arrivée.
Et donc il va gagner l'expérience.
On est aussi dans le débat d'apprentissage quand on lui dit mais le Tour c'est grandiose, les médias s'il y est pas, il va pas apprendre. Il y a la théorie et la pratique. Hier il a mis en pratique. S'il nous arrive un problème, comment on fait? Hier ils ont mis en application ce qui peut arriver.
Il est rassuré par rapport à ça, j'imagine, que il sait
par
que son équipe sera
équipe,
là.
Ouais. Comme tu dis, Pascal, on le sait que son équipe est forte. Ouais, mais moi j'ai aussi, et Marc peut le confirmer, on a pu aussi faire plein de stages de préparation où nous, quand on est entre nous, les mecs ils marchent. Puis quand ils arrivent sur le terrain, c'est plus la même.
Comment ils font?
Au moins là, et là au moins ils savent que ça va.
On continue. On continue d'en parler dans un instant. On va continuer de parler de Paul Seixas avec vous au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Marc Madiot, Jérôme Pinault, Fred Weiss, Pascal Duprat et Jérôme Coppel avec nous depuis le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler de Wemby qui ne sera pas champion NBA, hein, perdu cette nuit face aux Knicks à la finale. On va en parler dans un instant avec toi, Fred. Tu vas prendre le brassard de capitaine. On sera à San Antonio également où malheureusement la défaite a eu lieu la nuit dernière. On continue de parler de Paul Seixas. On attend de savoir s'il sera bien au départ de la dernière étape. Lui qui a vécu son premier coup dur hier à 3 semaines du Tour. Est-ce que c'est un mal pour un bien? On débat de ça depuis tout à l'heure. Jérôme Coppel, toi tu es sur les routes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors hier en plus il a une journée difficile, il est élu super combatif et donc il doit faire le protocole et tout ça, hein. Donc ça a été une journée un petit peu longue, Jérôme, qu'est-ce que toi tu constates sur l'environnement qu'il y a autour de lui aussi, parce que là c'est une course en France, on le disait, il y a de l'attente, il y a le public qui le pousse, à l'arrivée il dit j'ai voulu le faire aussi pour les gens qui comptent sur moi, pour le public, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as découvert de l'environnement autour de Seixas là sur la course?
Ben, découvert pas grand chose, découvert que c'est une superstar, mais ça on le savait déjà. Maintenant l'engouement qui suscite pour le public, c'est la folie, quoi. Je veux dire, les gens en ont que pour Paul Seixas, c'est vraiment incroyable. Et qu'il soit devant ou même quand il était lâché, quand il était en difficulté après sa chute, voilà, tout le monde le soutenait. Et c'est vraiment la star du cyclisme français. Et je crois qu'à 19 ans, alors qu'il débute sa carrière, je me demande s'il a pas déjà plus de popularité qu'a pu l'avoir Julien Alaphilippe par exemple.
Ah ouais.
C'est franchement, c'est la folie. Alors peut-être parce que c'est comme l'a dit Marc tout à l'heure, on attend un potentiel vainqueur du Tour depuis 40 ans. Donc peut-être il y a encore plus d'impact sur le grand public, mais il a encore pas du tout les résultats. Alors ils sont chacun dans leur catégorie, mais il a pas encore les résultats qu'a pu avoir un Julien Alaphilippe par exemple. Mais au niveau popularité, j'ai l'impression qu'il prend déjà une envergure. Il est déjà en tout cas au niveau de Julien Alaphilippe. J'ai l'impression c'est dingue. Franchement, c'est la folie. Bah, j'ose pas imaginer ce qui va se passer.
On vit la même chose, Jérôme, au quotidien quand on croise les gens. Il y a les passionnés de vélo et ceux qui connaissent rien. Mais ceux qui connaissent rien, aujourd'hui, nous disent on a un jeune français là qui va peut-être gagner le Tour.
Bien sûr.
Ça y est, c'est oui. Parti.
Bien sûr.
Non mais il faut savoir faire pour le coup. Tu parlais de ses capacités devant les médias maintenant, Marc. Mais c'est vrai, lui est conscient de ce qu'il y a autour de lui. Il en parle et ça fait partie de ses carburants. Il faut savoir le gérer ça aussi. Toi t'as dû gérer avec Thibaut Pinot, mais qui avait peut-être une
on n'était pas au même niveau.
Voilà, on n'était pas au même niveau et puis et même il avait un détachement lui peut-être par rapport à ça qui était différent, pas la même personnalité. Mais là on est sur le Dauphiné. Ce que nous décrit Jérôme est déjà quand même assez impressionnant sur le Tour de France.
x10.
Non mais même sur les grands cols et tout ça.
Hein. Oui, non mais ça va être x10. Donc
et la nervosité aussi.
Pour lui y avoir un désavantage par rapport à la concurrence, c'est qu'il lui va dépenser plus d'énergie à gérer tout l'environnement du Tour. Ça va être beaucoup plus important pour lui et son équipe parce qu'il est français, parce qu'on attend depuis 40 ans. Ça va forcément être beaucoup plus compliqué que pour Pogacar et les autres qui vont être
tranquilles. Il aura un amour qu'on lui rendra aussi, qui lui permettra de se transcender. C'est un carburant incroyable, ça.
C'est à la fois un carburant et une charge. Hein. C'est les deux.
Moi, je pense que sur le Tour, ça peut être très porteur. Et je pense que ça peut lui glisser dessus parce que c'est une telle... tu peux découvrir et la première année tu vois tout et c'est génial et mais par contre c'est vrai que sur cette approche là moi j'ai été surpris, je sais pas Jérôme si je me trompe, mais le monde, déjà il y avait beaucoup de monde hier, j'ai trouvé dans l'étape, et il y a beaucoup de supporters Paul Seixas, c'était là déjà
pour le soutenir quand ça allait pas bien
sur un ancien Dauphiné parce qu'on est un peu réac aussi, mais sur un Tara c'est rare quand même.
Jérôme Coppel.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que j'ai rarement vu autant de monde sur le Dauphiné. Des fois, aujourd'hui par exemple, typiquement l'arrivée à Solaison sera la même qu'au Tour de France. Ouais. Mais d'habitude, vous faites le Dauphiné, il y a personne, il y a pas un rat. Vous arrivez au mois de juillet, c'est plein à craquer, c'est noir de monde. Et hier, c'est la première réflexion que je me suis fait dans le Grand Colombier en me disant, purée la vache, le monde qu'il y a pour un Dauphiné.
Ah oui.
Et on revoyait un peu déjà des images du Tour où ça s'écartait un petit peu au dernier moment devant les coureurs, etc. Ça, il n'y a pas avant. Et là, Paul Seixas, en plus, il est chez lui, il est plus ou moins sur ses terres. Et il a apporté un monde fou. Et aujourd'hui, je suis curieux de voir le monde qu'il y aura justement dans la dernière ascension. Mais il y a déjà le phénomène Paul Seixas qui attire des spectateurs. Et comme le disait Jérôme, pas forcément. forcément que des spécialistes en plus du vélo, pas que des puristes. Donc ça, c'est l'impact qu'il va avoir. Et il a que 19 ans, il est juste au début de sa carrière, donc je n'ose pas imaginer ce qui va se passer dans quelques années.
Tiens, Maria Azé qui commente ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes nous rejoint. Maria, on a les infos, il va prendre le départ.
Oui, selon les informations qu'on a en interne, il devrait prendre le départ de cette dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, selon ce qu'on dit, pas forcément à 100%. Donc on verra s'il vient pour jouer la victoire d'étape. Lui forcément viendra pour jouer la victoire d'étape, mais faut voir dans quel état entre guillemets il sera pour cette étape et cette arrivée au plateau de Solaison. Évidemment, deux cols hors catégorie aujourd'hui, plus de 3800 mètres de dénivelé positif. Donc ça va être une sacrée étape.
Là, j'ai une vraie question pour toi, Jérôme. Enfin, pour les deux, Jérôme. Non, parce que ouais, c'était une fausse question. Mais là, c'est une vraie question. Je me dis, c'est quoi l'intérêt d'y aller dans ce cas de figure là, en fait?
Alors,
l'intérêt?
Je suis d'accord avec toi, Fred.
Il y en a pas si vraiment il est diminué.
Bah oui, c'est ce qu'il a annoncé apparemment.
S'il y va, pour moi, c'est qu'il se. Enfin, la question qu'on a dû lui poser ce matin, j'espère, c'est est-ce que tu te sens capable de performer? C'est pas de suivre le peloton et d'être lâché dans le premier col. Mais ça, tu peux pas trop le savoir.
Bah, c'est difficile, ouais, oui, bien
donc
sûr.
Il a dû faire un peu de home trainer pour voir si ça roule, tout a tourné bien. Ils ont pris tous les contrôles nécessaires pour voir si le corps avait récupéré.
Après, il y a peut-être la volonté de pas vouloir décevoir. Hein. Il y a son équipe qui l'a aidé.
J'ai une vraie question, moi, pour nos spécialistes.
Bah, dis donc.
Et,
c'est l'heure de vérité.
Il a des blessures. Le vernis est parti à peu près partout. Ouais. Combien de temps on met pour récupérer de blessures telles que celle-ci?
Pour récupérer sa peau quand on n'est pas un reptile, mais juste un être humain.
Ça doit tirer.
La problématique, c'est pour le vernis, c'est d'abord la récup, le sommeil, tout ce qui est. Ouais. D'abord, penser ses plaies, c'est ça. Mais c'est ce qui se passe, passer en dessous. La peau, ça va durer 8 à 10 jours et c'est fini, on oublie. Ah ouais. Maintenant, il y a les hématomes, pouvoir renforcer.
C'est dans 3 semaines le tour.
Et c'est vrai que. Non, mais le tour, ça va aller, sauf qu'il y a un bloc de travail.
Mais tu t'entraînes encore pas bien, fois, justement.
Voilà, c'est ça. Il y a un bloc de travail à mettre en place. Mais si c'est que des dermabrasions et que dans 8 jours, on n'en parle plus. Pas de problème. Enfin, même dans 4 jours, il refait des efforts à haute intensité. C'est pas.
Mais
un
là,
problème.
ce matin, quand tu montes, vous êtes tous tombés. Quand tu montes et que t'es râpé, vous savez quoi, des doubles peaux, mais ça doit être terrible la sensation.
Là, ça
sur
brûle,
le vélo,
Jérôme, on a l'habitude. Hein.
Oui, ben de toute façon, tu te lèves, t'as l'impression que tu t'es fait rouler dessus par un camion. Tu vas voir le médecin qui va te mettre de la double peau, etc. Donc oui, t'es pas bien. Et pour revenir à ce que disait Jérôme, c'est une quand tu tombes, le corps déjà il lutte pour guérir, lui, pour cicatriser, pour refaire la peau justement. Donc c'est de l'énergie qui est pas mise pour faire ton effort que t'as à faire sur ton vélo. Donc forcément, qui sera pas à 100%. Après, il peut pas, tant qu'il a pas pris le départ de la course, il peut pas vraiment savoir comment il est, parce que peut-être qu'un Paul Sexas pas à 100%, suivant la physionomie de course, suivant comment ça se passe, il peut peut-être quand même gagner l'étape. C'est peut-être ce qu'il se dit. C'est peut-être pour ça qu'il va prendre le départ aujourd'hui.
Ah,
et il fera le point. Je veux dire, l'étape aujourd'hui, c'est assez simple. Hein. Ils partent au pied d'un col de 7 km à plus de 10% de moyenne. Donc, il va vite être fixé sur les jambes qu'il a aujourd'hui. Hein. S'il est pas bien dès le départ, il faut pas qu'il force. Voilà, il se gare et il rentre dans la voiture et il essaye d'accélérer la récup plus vite. Quoi.
Marc, le mot de la fin.
On est dans un sport où on roule aussi avec des blessures.
Bah oui.
Ça fait partie du métier de coureur cycliste que de rouler avec des blessures suite à une chute.
C'est
ou
tous
autre.
Les sports professionnels.
Ouais. Donc, à partir de là, s'il est en état de rouler, s'il pense qu'il peut rouler, il roule, même s'il ne sera pas à son meilleur niveau, mais il va rouler parce que ça fait partie de son métier.
Écoutez, on est ravis déjà de savoir qu'il va prendre le départ. Hein. Ça veut dire que c'est pas grave. Au moins, c'est ça l'information.
Ça, on le savait hier soir.
On a la confirmation définitive. Le premier coup dur pour Sexas, c'est-il un mal pour un bien? On a 3 semaines du tour. Résultat du sondage sur le ring des grandes gueules du sport. Vous dites oui à 77%.